Accord de 2022, Michel Bonnet. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que... d'un bouquin. Mais un bouquin qui a été écrit il y a des siècles. Alors c'est pour ça que ça peut être intéressant. Figurez-vous que quelqu'un m'a posé la question, est-ce que au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, Cordes était dans le pays de Cocagne? Alors, j'ai été surpris, parce que je ne m'attendais pas à la question, et surtout, elle m'a montré qu'on imaginait, la question voulait dire, est-ce que finalement, le pastel, la Cocagne et le pastel, c'est pareil, si on peut dire pour beaucoup de gens, et donc, est-ce qu'il y avait du pastel à Cordes, ou est-ce que pastel, le pays de Cordes, faisait partie de ce terrain riche grâce au pastel? Et alors là, du coup, alors évidemment, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aborder cette question. D'abord parce que ça fera pas plaisir à beaucoup de méridionaux, donc j'ai le droit de parler en tant que méridional, mais le mot Cocagne, ça vient pas du tout du pastel, hein. Ça a été appliqué sur le pastel, ça désigne aujourd'hui les boules, lorsque les fleurs de pastel ont été écrasées, mises en boule, etc., ça désigne donc ces boules de Cocagne. Mais ça, c'est venu bien après. La plus vieille mention qu'on a du mot Cocagne, en fait, c'était le nom d'une grande route, la route pour le transport de l'étain, avant que les Romains viennent embêter les Gaulois, donc largement il y a plus de 2000 ans, et c'est une route qui partait qui traversait le Cotentin pour la Bretagne, aller sur Nantes, puis sur Saintes, et Saintes, comme vous le savez bien sûr, c'était un des plus gros centres de transport, de communication des grandes routes du temps des Gaulois, entre l'Est et l'Ouest, entre Lyon et l'Atlantique, etc. Bon, mais enfin, on n'est pas là pour parler de ça, c'est une diversion. Bien, donc, Cocagnas, c'est comme ça qu'on dit Cocagnais, voilà, ça c'est le vrai nom de Cocagne. Et donc c'est venu. Comment c'est venu jusque pour appeler le pastel, personne ne le sait. Alors laissons les gens imaginer ce qu'ils veulent. En fait, c'est surtout au 19e siècle que les romantiques, vous le savez, ont réinventé le Moyen-Âge et se sont mis à étudier le pastel parce qu'on avait beaucoup de documents sur les grands marchands toulousains du pastel. Mais ça, c'était après, c'était au 15e siècle. Voilà. Par contre, je trouve que... Enfin, on s'intéresse pas beaucoup à quelque chose qui concerne Cordes et qui est extrêmement intéressant. Il s'agit d'un manuscrit qui a été écrit, comme bien sûr un manuscrit, au temps de la fondation de Cordes. Et donc, ça nous intéresse au XIIIe siècle. En fait, il a existé entre des champs, des jongleurs, etc., comme c'était à l'époque. Hein. Et puis, quelqu'un, tout d'un coup, on ne sait pas qui, s'est mis à rassembler toutes ces différentes histoires et en a fait une compilation sous la forme d'un fablio. On appelait ça un fablio, un conte, et qu'il a appelé le fablio, Li Fabio di Cocagnas. Et donc nous allons parler de ça, le fablio de Cocagne. Et je trouve ça intéressant pour deux choses. D'abord parce que c'est un document important de littérature, je dirais, même s'il est très peu étudié. Pour en trouver une édition en français, faut se lever tôt, et j'aime autant vous le dire. Bref, c'est vraiment laissé entre les mains des spécialistes, mais tant pis. Mais l'autre chose intéressante, c'est que à travers ça, il nous permet de mieux découvrir un peu la vie à Cordes à cette époque-là, c'est-à-dire c'est-à-dire au moment des 20 ou 30 ou 40 premières années de la vie cordaise. Et ça, donc, c'est toujours intéressant d'avoir ça. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire, bon, on va en parler un peu, c'est une histoire d'un gars qui doit partir en pèlerinage, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, et qui tombe dans le pays de Cocagne et qui raconte à ses copains qu'est-ce qu'il a vu au cours de ce pèlerinage dans ce pays, et qui donc raconte des tas de choses. Quoi. Qu'est-ce que c'était que le pays de Cocagne? Et bon, je vais pas vous lire le fabuleux en entier, parce que c'est assez difficile, un mélange de romans, de vieux français, de latin, etc. Des traductions, il y en a pas lourd. Bref. Et puis c'est assez long. Mais quand même, je crois que c'est intéressant que je vous en lise des petits passages par-ci par-là pour vous donner accès à un texte, le texte lui-même. C'est toujours bon, c'est toujours de... Et puis de l'époque du XIIIe siècle, du lancement de cordes, on n'a pas beaucoup d'occasions de ce genre. Alors il commence... après avoir expliqué son voyage, il dit « Ce pays a pour nom Cocagne. Plus on y dort, plus on y gagne. » Donc, vous voyez de suite l'ambiance. Un pays où la caractéristique, c'est être cool, pas se fatiguer au travail, etc., etc. Et donc, pratiquement, ça résume bien tout le mot, le rêve d'être tranquille. Bon, on le porte tous. Hein. Le président Macron nous a dit que avec la 5G, la France allait devenir un pays de cocagne merveilleux. Plus rien à faire, tout est connecté, vous voyez, donc bon, on rêve toujours comme nos anciens, on y arrive peut-être pas toujours aussi facilement. Hein. Alors, et ensuite, il aborde la nourriture, évidemment, c'est l'essentiel, c'est le numéro un. Alors voilà ce qu'il raconte sur la nourriture dans le pays de Cocagne. « De bar, de saumon, d'alloz sont les murs de toutes les maisons. Les chevrons sont faits d'esturgeon, les toitures de lard et les clôtures de saucisses. De rôti et de jambon sont enclos les champs de blé. Par les rues vont se rôtissant de grasses oies qui tournent sur elles-mêmes arrosées d'une sauce blanche à l'ail. On trouve des tables dressées avec des nappes blanches où peuvent boire et manger tout ce qu'ils veulent gracieusement. Chacun prend ce que son cœur souhaite, certains du poisson, d'autres de la viande. En cette terre heureuse coule un ruisseau de vin. Les coupes s'approchent d'elles-mêmes, ainsi que les verres et les calices d'or et d'argent. Ce ruisseau dont je parle est moitié de vin rouge, du meilleur qu'on puisse trouver, l'autre moitié est de vin blanc, lui aussi le meilleur et le plus fin. Qui en veut n'a qu'à s'approcher, en prendre au milieu ou sur les rives, et boire à n'importe quel lieu sans payer un denier. Donc voilà déjà une bonne entrée en matière, on mange bien et on boit bien, ce qui est un peu le rêve de tout le monde. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous une minute.
CFM. CFM.
Giant steps are what you take walking on the moon. I hope my legs don't break walking on the moon. We could walk forever walking on the moon. We could live together walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Feet, they hardly touch the ground, walking on the moon. My feet
don't hardly make no sound. Walking on, walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away. No way. And if it's the price I pay, some say tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Giant steps are what you take, walking on the moon. I hope my legs don't break, walking on the moon. We could walk forever, walking on the moon. We could be together, walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away. No way. And if it's the price I pay, you say tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Some may say I'm wishing my days away. No way. And if it's the price I pay, you say tomorrow's another day. You stay, I may as well play.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous continuons l'évocation donc de ce fabliau du XIIIe siècle, du temps de la fondation de Corde, qui s'appelle le fabliau, pardon, de Cocagne. Alors, après la nourriture, il parle d'un autre sujet, c'est l'emploi du temps. Les jours de fête, les jours de travail, etc. Alors là, c'est cool là aussi. Hein. Il faut connaître un peu l'ambiance du Moyen-Âge où il y avait, enfin, où tout était très, très réglementé, quoi, hein, par le calendrier de l'Église. Là, dans ce pays, un mois à 6 semaines. Un an, 4 Pâques. 4 fêtes de Saint-Jean. Tous les jours sont fériés et dimanches. 4 Toussaint, 4 Noël, 4 Chandeleurs, 4 carnavals. et un carême, mais tous les 20 ans. Donc, vous voyez, c'est des jours de fête en pagaille. Troisième souci, pour les gens qui devaient l'écouter, c'est la monnaie, puisqu'on commence à commercer, on achète, on vend, etc. Alors, comment ça se passe? Eh bien, le pays est si riche que les bourses pleines de deniers gisent le long des champs. Maravédis et Besan sont trouvés partout inutiles. Là, personne n'achète ni ne vend. Donc le problème est résolu. Pas d'achat, pas de vente. Voilà. Et puis après, bon, la nourriture, après l'emploi du temps, l'argent, un souci numéro un souci, un souci si on peut dire, les relations entre hommes et femmes, la vie sexuelle, c'est pas l'essentiel de la vie, mais une bonne partie quand même. Alors, les femmes sont si belles, mûres et jeunes, chacun prend celle qui lui convienne. Personne n'en sera courroucé. Chacun satisfait son plaisir comme il le souhaite et à loisir. S'il arrive par hasard qu'une femme s'intéresse à un homme qu'elle voit, elle le prend au milieu de la rue et satisfait son désir. Ainsi, les uns font le bonheur des autres. Donc, on découvre là qu'il y a une vie, les rapports sont assez libres au niveau de la vie sexuelle. Et il continue avec un souci qui était important à cette époque-là, que nous on a du mal à comprendre peut-être, c'est la place du vêtement, puisque chacun était obligé d'avoir un vêtement précis, d'une couleur précise, d'une forme précise, c'était pas du tout libre comme aujourd'hui chez nous. En ce pays fortuné, il y a des drapiers très courtois, car ils distribuent chaque mois volontiers et avec plaisir, diverses robes de qualité. Qui veut sa robe de brunette, d'écarlate ou de violette ou de bif de bonne qualité ou de vert ou de ses foncés ou de soie alexandrine, de tissu à rayures, de camelin. Il existe là tant de robes que chacun prend à volonté. Certaines de couleur, d'autres grises, pour qui le souhaite, fourré d'hermine. La terre est si fortunée qu'elle a aussi des cordonniers que je ne trouve pas méchants, qui, pleins de gentillesse, distribuent des chaussures à lacets, des bottes, des bottines bien faites, qui les souhaite les aura en biais, bien ajustés aux pieds, qui veut 300 paires par jour ou même plus, il les aura. Et enfin, le top, si on peut dire, au centre de ce pays de cocagne, il y a encore une autre merveille. Vous jamais n'écoutâtes pareille chose, la fontaine ne jouvence. La fontaine qui rajeunit les gens et apporte d'autres bienfaits. Là, il n'y aura pas, je le sais bien, d'hommes si vieux ou si fleuris, ni de femmes si vieilles aux cheveux blancs et grisonnants, qui ne retrouve ses 30 ans. Et si à la fontaine peuvent aller, là peuvent rajeunir ceux qui habitent le pays. Vous voyez, avant de passer à la conclusion, il faut faire un petit arrêt pour changer d'idée.
CFM. CFM.
Days.
Cordes 2022, Michel Bonnet. Nous terminons cette présentation du manuscrit Le Fablio de Cocagne avec la conclusion. Et alors là, on change d'ambiance. Et c'est intéressant de voir ça. Voilà ce qui est écrit. Certes, est très fou et niais, qui peut entrer dans ce pays, puis lorsqu'il y est, en sortir. Je le sais, car j'ai été fou quand je suis sorti de ce pays. Mais je vais mes amis chercher pour à cette terre les amener tous avec moi si je le pouvais. Mais depuis, jamais je ne pus y rentrer. Du chemin que j'avais quitté, ni le sentier, ni la voie, je ne puis jamais les retrouver. Et comme je ne puis y retourner, il ne me reste qu'à me résigner. Mais une chose que je veux vous dire, gardez-vous si vous êtes bien, de ne changer rien à rien, au risque de mal finir vous aussi. Fin de la Cocagne. Voilà donc ce texte, un peu plus long, j'ai donné que l'essentiel, mais vous sentez l'ambiance. Je considère ça comme une plongée assez intéressante dans le monde de Cordes, puisque à l'époque où ça a été écrit, il y a deux choses à tenir compte. D'abord, ce genre de fablio, c'est de l'utopie, c'est-à-dire on prend exactement le contraire des conditions de vie que l'on a. Et donc, à travers ce texte-là, on peut évoquer, on peut deviner quels étaient les problèmes auxquels se heurtait la population de Cordes pendant ce XIIIe siècle. On a rarement des documents qui nous en parlent. Bien sûr, il s'agit pas, on s'en doute, il s'agit pas des seigneurs, des consuls, il s'agit pas des deux Clary, des deux Rabastens, etc., etc. Il s'agit des travailleurs, des paysans qui sont autour de Cordes et qui viennent habiter à Cordes, des travailleurs de toutes sortes, que ce soit dans le bâtiment, dans le tissage, tous ceux qui font vivre le pays. Et ils ont la vie dure. Il faut y penser. Ça, c'est un deuxième point. Et un deuxième point, c'est comment ce fablio est venu au monde. Parce que c'est pas spécial à ce fablio, comme on le connaît avec les chants des jongleurs, des troubadours, etc. Les gens se rassemblaient, surtout en hiver. Mais le soir, quand on ne pouvait plus travailler puisque c'était l'obscurité et comme il n'y avait pas grand-chose en dehors des cierges, mais il coûtait très cher, donc on se rassemblait dans une maison autour du foyer, autour du feu, et on se racontait des histoires. On parlait de la vie, des soucis, des rêves, des bons coups qu'on a vus, enfin, etc., etc. Et chacun y amenait son point de vue. Et c'est comme ça que on a des tas, toute la vie remonte. Et sentir ce fablio, moi je passe pas mal d'heures à ça pour le plaisir, c'est à relire ces textes et imaginer les cordées parlant de la nourriture là dans une des maisons de Cordes, vous voyez, on sent que tous ces problèmes, toute cette vie remonter à ce moment-là. Et c'est ce que ce manuscrit du Fablio est important pour nous, parce que il nous permet de connaître à la fois et les rêves et les soucis et les désirs des cordées de cette époque, mais en même temps, par contre-coup, leur souffrance, leurs difficultés. Et donc ça nous sert quand même à mieux connaître l'histoire de notre cité. Et quand on dit que la vie est dure, vous voyez, si on suit simplement l'ordre du fablio, on s'aperçoit que la nourriture est un problème numéro un, mais on sait qu'à cette époque-là, la faim tenaillait les gens. Et bon, aujourd'hui, bien sûr, on ne nous le dit pas, mais on a combien de millions de Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté et qui peuvent pas finir les fins de mois. Ils ont peut-être pas faim parce que on réussit à trouver dans un supermarché des nouilles ou des trucs comme ça qui bourrent le ventre et qui sont pas trop chers, mais la faim est là, qui tenaille. Beaucoup de gens qui affaiblit, c'est un problème sans doute, certainement qu'il faudrait que notre très cher et vénéré gouvernement devrait prendre un peu plus au sérieux, mais en fait ça c'est un autre problème, c'est pas celui du Moyen-Âge, c'est celui d'aujourd'hui. Peut-être qu'au Moyen-Âge c'était pire, mais c'est pas sûr. Et puis, donc cette question de la faim, le deuxième point qui me frappe beaucoup, c'est la place du travail là-dedans. Le rêve décordé de l'époque, c'était, comme le dit le titre du pays de Cocagne, c'est le pays qui a pour nom Cocagne, plus on y dort, plus on y gagne. C'est-à-dire que on rêve d'arrêter cette pression du travail qui est constante. Le travail, c'était à la fois... le fait de travailler, mais aussi le fait de ne pas pouvoir choisir soi-même ses moments ou ses lieux de travail, et à plus forte raison son style de travail. Et donc, ce lien avec le travail, cette place du travail, est extrêmement importante pour les gens. Et puis, et bien sûr aussi, les rapports sociaux et les rapports hommes-femmes, les rapports homme-homme, femme-femme, l'homosexualité à l'époque était véritablement interdite, et si on en trouvait, si des gens étaient, soupçonnés d'homosexualité, ils étaient brûlés, ça soulevait le problème, ça résolvait le problème rapidement. Hein. Mais n'empêche qu'au niveau des relations sexuelles, c'était très dur, on le sait, bon... L'Église était absolument opposée à ça. Elle essayait de canaliser cela parmi les riches, parmi les aristocrates, à travers le sacrement de mariage, qui avait des règles, etc. Dans la population, il n'y avait pas cette obligation du mariage, au moins au début du XIIIe siècle, mais ça se mettait en place tout doucement. Et donc, les gens rêvaient d'un peu plus de liberté. On sait que, par exemple, les croyants cathares considéraient que la relation sexuelle n'avait rien à voir avec... Elle était aussi bonne ou aussi mauvaise qu'on soit marié ou pas. Et ils étaient pour la liberté de relation homme-femme. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que à travers ce fabliau, à travers cette utopie, ces rêves, on a l'image d'un monde qui est très dur. Et qui est le monde de cordes du XIIIe siècle. On s'arrête une petite seconde de plus.
CFM. Thank you.
Awards 2022, Michel Bonnet. Nous avons donc vu, en parlant du pays de Cocagne, qu'il nous présentait un peu une image de la vie à Cordes au moment de la composition du Fablio, donc en ce milieu au milieu du XIIIe siècle, au sens où il nous présente un monde d'utopie, et c'est un monde de rêver. Et c'est le contraire du monde dans lequel on vit. Or, ce monde dans lequel on vivait, et c'est dit dans le Fablio, c'est un monde où on voudrait faire la fête en permanence. Et la fête, à cette époque-là, elles sont rares, n'est-ce pas ? Ça s'appelle un carnaval. Et c'est à partir de la notion et de la pratique du carnaval qu'on peut analyser ce Fablio. Et ça, c'est important, parce que le carnaval est une très très vieille coutume, bien avant le Moyen-Âge, mais qui a pris de l'ampleur au Moyen-Âge, parce que justement, l'Église imposait petit à petit le carême comme un moment important de l'année. Et si elle avait pu, elle aurait voulu que tout le monde fasse comme les moines, soi-disant, fasse comme les moines et fasse carême tout au long de l'année. Et jeûner plusieurs jours par semaine, etc., etc. Il y avait une volonté peut-être pas forcément de pénitence, mais en tous les cas de pas profiter des plaisirs de la vie. Et on doit se rappeler, quand on pense à Cordes au Moyen-Âge, à la place du carnaval, dans les rues de Cordes. On connaît pas ça aujourd'hui, c'est dommage d'ailleurs. Hein. Mais bon, il y en a bien qui essaient, quand on fait les fêtes du Grand Fauconnier, c'était un peu aussi le carnaval, mais en fait, c'est quand même pas la débandade du carnaval. Quoi. Mais bon, à Albi, le carnaval est fameux, il y en a bien d'autres. Et donc, l'intérêt du carnaval, c'est pas de passer simplement une journée sympa, de chanter, de danser, c'est de rendre présent un autre monde que celui dans lequel on vit. C'est cette altérité qui est l'essentiel de l'utopie et l'essentiel du désir des gens. On rêve d'être dans un autre monde, dans une autre époque que celle dans laquelle on est obligé de vivre. Si bien que quand on regarde le pays de Cocagne et les explications qu'on a dans le Fablier, on s'aperçoit que c'est en fait un pays de Cocagne qui n'est pas construit par les gens, par les hommes, etc., mais qui émerge de leur vie, de tous leurs besoins, de leur vitalité, etc. Ce n'est pas une production. Je dirais, le Fablio n'est pas une production littéraire, au sens strict du mot, fait par quelqu'un dans son bureau, etc. Non, c'est une émanation de la vie des gens. Et à ce sujet-là, il faut pas confondre le pays de Cocagne tel qu'il a été imaginé par exemple Thomas Merton, avec toute l'utopie dont on a parlé d'ailleurs un jour ici à CFM, n'est-ce pas ? Ça, c'est l'utopie au sens littéraire du mot. Ou bien même Rabelais avec plus tard, hein, c'est Rabelais, c'est au 15e siècle, c'est dans les 1530, 16e siècle, plus tard, où là, l'abbaye de Thélème, c'est des gens qui ont une règle, c'est fait pour évidemment être heureux, tout ce qu'on veut, mais n'empêche, c'est programmé, c'est ordonné, c'est organisé. Et c'est ce que feront les grands pasteliers, les seigneurs, les riches toulousains, après, au 15e, 16e siècle, quand Toulouse sera devenue, dépendra du roi de France, quoi, hein, et que donc là, les choses seront différentes, et ces riches-là bâtiront un empire et bâtiront des richesses sur le Cocagne, ou sur la Cocagne, sur ils en feront, ils voudront faire de Toulouse et du Lauragais un pays de Cocagne. Mais ça, ce n'est pas au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, au moment du Fabliau de Cocagne, tout surgit de la vie même et de cette vie qui est dure, etc. Et je pense que en même temps, ce lien entre la vie quotidienne et le carnaval, ce moment du carnaval tout à fait exceptionnel. Peut-être un jour faudra faire une émission sur le carnaval à Cordes, jusqu'à quel point vous le connaissez, je ne sais pas, mais c'est important de bien voir ce qu'était le carnaval à cette époque-là. C'était pas aussi sage que le carnaval d'Albi. Mais ce qu'il y a, c'est que ça nous pousse à avoir une réflexion sur qui nous amène à nous rappeler que au XIIIe siècle, quand on pense aux rêves, au pays de Cocagne, etc., on pense au paradis terrestre. Parce que l'Église est omniprésente, tous les dimanches, elle nous rappelle ça, qu'autrefois c'était bien, mais que le péché des hommes a tout cassé. Et donc, il y a à la fois à l'intérieur, on essaie de mettre à l'intérieur des gens l'univers culturel dans lequel on essaie de plonger les gens, c'est à moitié le regret du temps jadis qui était une époque paradisiaque, l'Éden est paradisiaque, mais en même temps quelque chose qui a été cassé par une décision de Dieu, mais qui est venue contre le bonheur des hommes. Et ça, il faut bien se rendre compte que dans la tête, même s'ils ne le disent pas exactement comme moi aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est évident, hein, on réfléchit pas tous de la même façon. Je vous dis pas que chacun des cordés aurait pu venir à un micro de CFM dire la même chose à cette époque-là, quoi. Mais il est sûr qu'on essayait de mettre dans la tête, l'Église essayait de mettre dans la tête des gens que c'était de leur faute si Cordes n'était pas un pays de Cocagne. Pourquoi ? Parce que ils avaient cassé cette vie du paradis en entrant dans la lutte. C'est l'Église qui le disait, dans la lutte de Satan, le serpent, hein, Satan et Dieu, ou la lutte du bien et du mal. Et donc c'est une façon de montrer à chacun qui avait à l'intérieur de nous-mêmes une lutte permanente entre le bien et le mal, et du coup, Dieu a pris la décision d'éjecter du paradis, de chasser du paradis les hommes et les femmes, Adam et Ève, il les a chassés en leur imposant une loi nouvelle, c'est que, en dehors du paradis, si on veut gagner son pain, il faut le faire à la lueur de son front, il faut travailler. Donc, l'espoir des gens pour être heureux, pour que ça aille mieux, c'est d'abandonner cette malédiction du travail et donc de vivre, comme le Fabliau de Cocagne le dit, sans produire, sans commerce, sans argent, sans fatigue, librement, etc. Vous voyez comment Fabliau nous rappelle que au départ de l'histoire de l'humanité, ça c'est au niveau culturel bien sûr, hein, mais il y a eu une profonde révolution, on a abandonné un pays qui était encore mieux peut-être que le pays de Cocagne pour se retrouver sur terre comme il l'était au XIIIe siècle et comme on l'est nous aujourd'hui. Et aujourd'hui quand on entend le mot révolution, eh bien à quoi on pense ? À 1789 bien sûr. Hein. Et ce que je voudrais dire avant de prolonger ce mot sur le pays de Cocagne, c'est que on se retrouve aujourd'hui dans la situation du XIIIe siècle face à un monde qui commence à faire peur. Le XIIIe siècle, imaginez, les brasiers des cathares, c'était pas rien. Les soldats du roi de France ou les soldats du nord de la France qui descendaient sur le Midi, c'était pas rien. Et puis tout le reste, le climat, etc. Donc, on se retrouve aujourd'hui devant un monde de demain qui commence à faire peur. Les enquêtes qui sont faites sur les jeunes même en ce moment, là, la semaine dernière, il y avait le grand congrès mondial de la jeunesse sur le climat, et Greta Thunberg le disait très clairement, quoi. On a peur du monde que les adultes, vous nous avez fabriqué pour demain, donc il va falloir faire une révolution, il va falloir de nouveau changer tout cela. Je pense que ça vaudra la peine d'en reparler, parce que Corde a des choses à nous dire. En 1222, on est parti vers, on ne savait pas pour combien de temps, et 8 siècles après, on se retrouve dans la même situation. Je signale au passage, pour terminer, je ne sais pas si on peut le finir avec ça, l'émission, mais si vous prenez le Fabliau de Cocagne, il a été mis en chanson par Georges Brassens avec Au pied de mon arbre. Vous vous rappelez ce chant? C'est exactement l'histoire du Fabliau. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Jamais j'aurais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Jamais j'aurais dû le quitter des yeux. Eh bien, non, on ne quittera pas des yeux le mât de Cocagne, mais c'est pour le fabriquer de nos mains. Demain, ça sera un mât de Cocagne. Enfin, tout au moins, il faut le faire. C'était Corde 2022, Michel Bonnet.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de Cocagne. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurai plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
CFM. CFM Cordes. Trois lettres, un esprit, le rock.
On ne meurt plus d'amour, on ne meurt plus. toi qui essayes. Pleure et appelle entre deux ciels, toi qui t'effraies. J'ai rien appris, rien chaque fois, sinon qu'on n'en meurt pas, sinon qu'on n'en meurt pas.